Nous recevons tout de suite Marc Weissmann. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, écrivain, producteur de Signes des Temps sur France Culture, auteur de nombreux ouvrages, Un temps pour haïr, qui était paru chez Grasset, Une matière inflammable. On parlait à l'instant dans la revue presse internationale de cette tuerie en Nouvelle-Zélande. Avant de commettre justement son massacre, le tueur a publié un manifeste de 74 pages, dans lequel il se présente sous la forme d'une auto-interview. Se référant à un certain nombre de figures tutélaires, le suprémaciste norvégien Anders Breivik, Donald Trump, pour qui il exprime son admiration. Et puis par ailleurs, ce tueur avait fait un voyage en France en 2017. Il explique avoir été particulièrement marqué parce qu'il considère comme un envahissement des non-blancs. Et puis surtout, le titre de son texte, Le Grand Remplacement, est évidemment une référence assez explicite au concept éponyme développé par Renaud Camus ici en France. Que vous inspire le contenu, Marc Weissmann, de ce manifeste? Et est-ce que vous avez été étonné de voir l'influence du contexte idéologique français sur ce jeune Australien?
Alors, sur l'influence du contexte français d'une manière générale, oui, je trouve ça surprenant, je trouve ça très intéressant. J'ai lu hier dans le journal du dimanche qu'une enquête venait d'être ouverte en France pour voir quel contact éventuellement avait pu avoir le terroriste ici. On va peut-être apprendre des choses intéressantes, je sais pas. Il y a en France un contexte très particulier. Une narration particulière, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans Un temps pour haïr, le livre que j'ai sorti cet automne sur la terreur et sur la haine. Et je crois qu'il y a effectivement il y a une culture très ancrée en France qui permet une sorte de bain de culture, quoi, qui fait qu'une narration haineuse est possible. Hein. On se rend compte que il y a beaucoup de considérations sur la France dans le manifeste du tueur, sur Macron qui l'appelle mondialiste, capitaliste, égalitariste, ex-banquier d'investissement sans autre conviction nationale que la recherche du profit. Je cite le manifeste et je cite pas les gilets jaunes. Mais on sent bien un certain nombre d'échos. Évidemment, ça ne veut pas dire pour autant que, et c'est là qu'il faut faire attention quand on commence à parler d'influence, les influences, elles sont multiples. Il y a effectivement le grand remplacement, l'expression est de Renaud Camus, mais Renaud Camus lui-même n'est pas cité dans le texte. Donc c'est très difficile après de, il faut pas surjouer les influences et il faut pas les sous-estimer non plus. Il y a des influences de jeux vidéo également. Il y a des influences du fasciste anglais Oswald Mosley. Il y a des influences serbes, datant de la guerre des Balkans. Il y a l'influence de Anders Breivik. Donc il y a un certain nombre de choses, mais qui font sens globalement.
Essayons justement peut-être de comprendre comment est-ce qu'on peut donner du sens à tout cela. Et pour ce faire, on va se faire aider de Jean-Yves Camus. Bonjour Jean-Yves Camus.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue et directeur de l'Observatoire des radicalités politiques. Effectivement, dans son texte, il y a énormément de références. Marc Weissmann nous le disait. Oswald Mosley, fondateur en 1932 de l'Union britannique des fascistes. Il dit que dans l'histoire, c'est la personne la plus proche de ses propres croyances. Il y a plusieurs symboles occultes sur la couverture du manifeste du tueur. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, Jean-Yves Camus, des fondements idéologiques de cet homme et quelle proximité idéologique réelle avec Renaud Camus et ses thèses?
Écoutez, la proximité idéologique réelle de cet homme avec ceux qu'il cite me semble extrêmement lointaine parce que, mis à part faire du name-dropping, on n'a pas l'impression de plonger dans les œuvres qu'il cite. Il arrive également qu'il reprenne des phrases entières, des phrases fétiches des suprémacistes américains, notamment de quelqu'un qui s'appelle David Lane et qui a eu une influence considérable sur les milieux suprémacistes des années 90-2000. Mais il n'y a pas véritablement de décortiquage d'un texte clé qui lui aurait ouvert, j'allais dire, les voies de son itinéraire. C'est quelqu'un qui semble avoir été influencé plutôt par des livres que par les livres, par des situations. Et c'est très intéressant de voir notamment ce qu'il raconte sur son passage en France et sur la manière dont, plutôt qu'un auteur, c'est son passage dans une petite ville de l'est de la France. Il donne un ordre de grandeur, une ville entre 15 000 et 25 000 habitants, dit-il. Et y séjournant, il s'aperçoit à ce moment-là que la population n'est pas celle qu'il avait cru trouver. Il était venu en France en pensant trouver une petite ville.
Alors voilà, la ligne vient de tomber. On va essayer de retrouver Jean-Yves Camus. Marc Weissmann, il y a peut-être qu'il faut reposer un petit peu les choses et redire ce qu'est la théorie du grand remplacement. Alors d'abord, il y a le volet purement démographique avec cette idée qu'il y aurait une augmentation d'une population extra-européenne, je mets des guillemets, qui serait remplacée par des populations qui seraient en passe, pardon, de remplacer les populations d'origine européenne, c'est-à-dire en fait des populations caucasiennes, et que tout cela participerait à une transformation culturelle et religieuse du continent, mais il y a aussi le volet qui concerne l'intentionnalité au fond de ce grand remplacement. Est-ce que vous pouvez peut-être nous aider, Marc Weissmann, à comprendre ce qu'il y a derrière ces subtilités qui parfois nous échappent un tout petit peu, Marc Weissmann ?
Alors, encore une fois, c'est compliqué d'attribuer directement ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande à la théorie, à ce qu'écrit Renaud Camus simplement, hein, parce qu'on rentre dans des zones grises où c'est très difficile d'évaluer le poids réel d'un texte sur un passage à l'acte, d'une manière générale. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a une espèce de géographie mentale qui se dessine dans la tête de Brendan Tarrant, le tueur, et au sein de cette géographie, on trouve comme ça flottantes, à mon avis, les expressions utilisées par Renaud Camus. On ne sait pas s'il a vraiment lu totalement Renaud Camus, ou s'il est tombé sur cette expression sur un site internet. On ne le sait pas. Donc c'est pas comment ces idées voyagent. Mais il est certain qu'il y a, personnellement, je serais à la place de Renaud Camus, je serais très mal en ce moment, parce que il y a tout de même de la part d'un écrivain un minimum de responsabilité, j'irais morale, en tout cas littéraire, normalement.
Lui dit qu'il ne se sent aucunement responsable.
Oui, mais bien sûr, mais parce que Renaud Camus, il a fondé il y a quelques années quelque chose qui s'appelle le Parti de l'Innocence, après avoir écrit des trucs antisémites que j'avais relevé à l'époque dans son journal. Et les écrivains qui sont innocents de tout sont aussi problématiques que ceux qui se croient responsables de n'importe quoi. Il faut faire attention à ce qu'on écrit. Le terme de grand remplacement implique quand même un certain nombre de choses. Il y a effectivement implicitement l'idée que ce grand remplacement est le résultat d'une intention maligne, ça peut être exploité. Et ça peut être entendu de cette manière. D'autre part, il faut bien voir que ce qui se passe dans la tête de quelqu'un comme Brendan Tarrant, c'est ce qui est gênant pour lui dans la théorie du grand remplacement, c'est la question de la migration. C'est pas la question de l'islam en soi. Il l'a écrit dans le manifeste, hein, c'est écrit tel quel. Il ne se sent pas du tout islamophobe, entre guillemets, pas plus qu'il ne se sent antisémite. Il a rien contre les musulmans quand ils sont chez eux, entre guillemets. Ce qui lui pose un problème, c'est l'idée du mouvement. C'est ça le point de référence fondamental. Il ne faut pas être autre chose que ce que l'on est. Sa haine, elle va avant tout elle est dirigée contre les convertis, par exemple, en premier lieu. Il faut rester fidèle à ses racines, à ses origines, à son identité. C'est ça le point commun.
Marc Weissmann, on essaie de comprendre aussi comment la théorie du grand remplacement peut influer les extrêmes droites mondiales. Si on regarde le cas américain et le suprémacisme blanc américain, est-ce que le grand remplacement a une influence dans ce suprémacisme blanc américain?
Je suis incapable de vous répondre à la question. Je ne sais pas comment les écrits de Renaud Camus voyagent aux États-Unis, s'ils voyagent. Ce qui est certain, c'est que David Duke et le Ku Klux Klan n'ont jamais eu besoin de Renaud Camus pour développer exactement la même idée en plus violent. C'est-à-dire que pour des gens comme le Ku Klux Klan et pour des gens comme les white suprémacistes, il s'agit moins d'immigration avant tout que par exemple de la présence noire aux États-Unis. Et dans leur esprit, c'est une présence noire. L'esclavage a été organisé, comme d'ailleurs le disent les certains noirs eux-mêmes, les musulmans noirs eux-mêmes, l'esclavage a été organisé par les juifs pour détruire l'Amérique. C'est-à-dire que, encore une fois, l'obsession, c'est le cosmopolitisme, la migration, ce n'est pas la religion en tant que telle. Les suprémacistes américains, le Klan certainement, voient l'immigration et la présence noire aux États-Unis comme le résultat d'un complot mondial pour organiser une sorte de grand mélange qui détruirait la race blanche.
Mais l'influence idéologique n'est pas si forte, ils n'ont pas besoin de Renaud Camus. On va retrouver justement par téléphone Jean-Yves Camus pour nous éclairer et peut-être au-delà du cas états-unien. Jean-Yves Camus, vous êtes avec nous? Jean-Yves Camus?
Oui.
Voilà. Vous disiez, Jean-Yves Camus, dans une interview ce week-end, que le tueur n'avait pas de colonne vertébrale idéologique et que toutes ses références sont au fond le résultat des recherches d'un homme qui fait son marché parmi beaucoup de doctrines disponibles, je vous cite. Donc ça veut dire d'abord qu'il y a un marché international des idées ultra-droitières. Quelle place la théorie du grand remplacement y tient-elle dans ce marché, Jean-Yves Camus ?
En Europe, une place de plus en plus importante pour celles et ceux qui lisent le français, qui peuvent avoir accès à l'œuvre. Mais encore une fois, et je le signale aussi dans le texte, la théorie du grand remplacement, ça ne veut pas dire que l'on veut s'armer d'un fusil semi-automatique et tirer sur les gens dans une mosquée. Tous les gens qui sont sur la théorie du grand remplacement, à commencer par Renaud Camus lui-même, n'ont jamais considéré que la violence, et a fortiori le terrorisme, était la solution. La solution pour eux, c'est la remigration, hein, c'est-à-dire le départ, alors volontaire, pas volontaire, ça c'est une autre chose, de celles et ceux qui sont d'origine non européenne et qui vivent sur notre sol. Ensuite, marché globalisé, il a eu certainement accès à un certain nombre de choses glanées sur Internet, mais cet homme est particulièrement intéressant parce que c'est un contre-djihadiste globalisé. Mais c'est un contre-djihadiste globalisé qui, contrairement à Breivik, qui lui ne circulait que sur Internet, voyage beaucoup, c'est ce qui va rendre l'enquête d'ailleurs à la fois difficile et passionnante. Qui a-t-il rencontré lors de ses multiples voyages aux quatre coins du monde? Pourquoi aussi un citoyen australien qui voyage en Corée du Nord et au Pakistan, ce qui n'est tout de même pas banal, réussit à passer au travers des mailles des services de renseignement? Il y a plein de questions qui sont ouvertes.
Mmh. Si on reste sur le contexte français, et je vais poursuivre un tout petit peu avec vous, Jean-Yves Camus, et ensuite je vous donne la parole, Marc Westman. Hier, Marine Le Pen, dans l'émission Dimanche en politique sur France 3, disait ne pas connaître la thèse du grand remplacement. Alors évidemment, on suppose qu'elle la connaît bien sûr, mais elle expliquait en tout cas qu'elle ne l'utilisait pas, et que par ailleurs, au Rassemblement National, on ne lutte pas contre les musulmans, mais seulement contre le fondamentalisme islamiste. Quelle influence ce grand remplacement a réellement au sein du Rassemblement National aujourd'hui, de l'extrême droite française?
Alors Marine Le Pen dit qu'elle ne connaît pas cette thèse, pourtant elle en a déjà parlé dans la presse. Elle dit qu'elle ne la cautionne pas, ça par contre c'est exact, elle avait déjà déclaré qu'elle trouvait des accents complotistes à la théorie du grand remplacement, parce que la théorie du grand remplacement, elle appelle une question. C'est qui manipule, qui l'a mis en place ce grand remplacement, et ça, elle ne tient pas à s'engouffrer dans ce genre de brèche. Quel impact ça peut avoir chez les militants? Ils sont effectivement persuadés qu'il existe aujourd'hui un changement qui est en train de devenir définitif, dû, pour employer les termes de cette famille politique, du substrat ethnique et religieux de la population française. Mais le Front National n'est pas, le Rassemblement National n'est pas un parti qui, comme celui de M. Wilders aux Pays-Bas, souhaite prendre des mesures d'interdiction du culte musulman en France. Ce qu'il veut, c'est l'assimilation, c'est que celles et ceux qui séjournent légalement, je précise bien légalement ici, s'assimilent à la culture française, mais il n'est pas partisan d'interdire purement et simplement l'exercice du culte.
Marc Westman, sur cette responsabilité de la droite et de l'extrême droite française, il y a effectivement cette question de l'intentionnalité que finalement Marine Le Pen rejette, et peut-être que c'est une nouveauté par rapport à son père qui, lui, l'assumait. Il se trouve qu'en 2017, Laurent Wauquiez, lui, avait évoqué la théorie de Renaud Camus dans un meeting à Saint-Étienne, considérant que ce grand remplacement, il y avait derrière une certaine réalité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité pour la droite conservatrice française dans l'acceptation et la diffusion de cette idéologie? Et est-ce que la nuance entre, disons, la droite conservatrice française et l'extrême droite se trouve précisément dans cette question de l'intentionnalité, avec derrière tous les accents complotistes qu'on peut y trouver, Marc Westman? Et est-ce que la limite n'est pas en train justement de devenir de plus en plus floue?
Peut-être. Ce qui, encore une fois, une des choses qui rend difficile toute évaluation des influences sur un passage à l'acte comme celui du tueur en Nouvelle-Zélande, et une des grandes différences entre les tueurs de masse d'extrême droite et les djihadistes, c'est que les tueurs de masse d'extrême droite éprouvent le besoin manifestement d'écrire des manifestes individualistes. Ce qu'on trouve pas chez les djihadistes. Les djihadistes se contentent d'appliquer des mots d'ordre, et on peut retracer assez aisément la filiation idéologique relativement. Chez les djihadistes, chez Breivik, par exemple à Utøya, comme chez Tarente aujourd'hui, on a à chaque fois un manifeste, c'est-à-dire que individuellement, chacun fait sa sauce d'influences diverses et reconstruit un peu comme un peu à la Mein Kampf quoi, reconstruit sa propre vision du monde à partir d'influences diverses. Donc il est très difficile d'évaluer le poids politique réel de tel ou tel écrit. Maintenant, il est certain qu'il y a un certain nombre de sur la question du grand remplacement, effectivement, comme le disait Jean-Yves Camus tout à l'heure, dès qu'on parle de grand remplacement, se pose la question de l'intentionnalité, qui y a derrière. Et là on commence à la porte est entrouverte au moins, sinon franchement ouverte, vers les théories du complot, à la David Duke, au Ku Klux Klan. S'il y a des gens derrière, c'est forcément des banquiers internationaux qui manipulent l'immigration pour détruire les cultures nationales, voire des juifs, on rentre dans des zones où n'importe quoi peut être dit. Par ailleurs, pour en rester sur Renaud Camus, qui est pas un intellectuel au sens strict, donc le terme même de théorie est flou en fait. Parce que Renaud Camus écrit un truc, puis finalement, non mais j'ai rien dit, en fait j'exprime une phrase parce que je suis un écrivain, puis j'exprime une autre idée, mais finalement tout ça c'est un peu ce qui me passe par la tête. Mais il y a la question de la remigration qui pose un problème, parce que effectivement Renaud Camus se dit pacifiste, il est opposé à la violence qui lui fait horreur, donc il faut se débarrasser des populations migrantes par une politique de remigration, c'est son idée. Mais qu'est-ce qui se passe si la remigration ne marche pas? Et de fait elle ne peut pas marcher, une remigration forcée, coercitive, à moins de faire sortir l'armée et donc d'utiliser une forme de violence, on a un problème. Donc c'est concrètement une politique de remigration signifie soit une violence d'État, soit quoi, soit la mise en place de réseaux de résistance pour lutter contre l'immigration. Et là, on commence à rentrer dans une logique terroriste.
Jean-Yves Camus, est-ce que vous voyez encore une différence d'approche entre l'extrême droite et la droite conservatrice française? Est-ce qu'il y a un rapport à cette, je mets des guillemets, théorie du grand remplacement? Est-ce que l'approche est différente ou est-ce qu'elle se rejoigne de plus en plus, Jean-Yves Camus?
Non, moi je pense que la droite conservatrice française continue à garder, fort heureusement, sauf quelques phrases malheureuses, ses distances avec une théorie dont Marc Vesvin vient de le dire, tout le monde, tous ceux en tout cas qui ont été en responsabilité gouvernementale ou veulent l'être, savent qu'elle n'est pas applicable. C'est aussi simple que cela, pour que les gens remigrent, il faut l'accord de leur, entre guillemets, pays d'origine, et autre le fait que ces pays d'origine ne sont pas des pays d'origine, puisque beaucoup de ces gens sont devenus français, eh bien, ils ne souhaitent pas reprendre leurs ressortissants. Donc la théorie est inapplicable, point. C'est une simple question de bon sens politique. Par contre, on a un discours de durcissement des règles de l'immigration qui, effectivement, rencontre un certain écho, mais c'est un problème qu'il ne faut pas éluder. De même qu'il ne faut pas éluder le fait que il n'y a pas de grand remplacement, mais il y a effectivement, compte tenu du nombre de personnes d'origine non européenne et européenne qui s'établissent dans un pays autre que leur pays d'origine, une modification de la composition de la population. Ça s'appelle le multiculturalisme. Alors si on dit effectivement que la société devient multiculturelle, eh bien il faut assumer le fait qu'il s'agit d'une modification par rapport à la façon dont une petite ville française vivait il y a quelques dizaines d'années.
Et peut-être que justement, il y a aussi une remise en cause de ce multiculturalisme. On l'évoquera en deuxième partie. En tout cas, merci beaucoup Jean-Yves Camus d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire des radicalités politiques, que vous aviez co-signé avec Nicolas Lebourg Les droites extrêmes en Europe, qui était paru au Seuil. Marc Vesman, vous restez avec nous. Et on poursuit nos échanges autour de l'attentat en Nouvelle-Zélande, de ce qu'il révèle de la montée en puissance des idéologies ultra-droitières, du suprémacisme blanc et peut-être aussi de la crise du multiculturalisme et des modèles d'intégration de nos démocraties. On retrouve Marc Vesman, merci d'être resté avec nous. Vous êtes journaliste, écrivain, producteur de Signes des temps sur France Culture, auteur de nombreux ouvrages, Un temps pour haïr, Une matière inflammable et d'autres encore. Depuis plusieurs années, Marc Vesman, la majorité des attentats qui ont touché le monde ont été le fait du terrorisme islamiste. Avec cet événement, cette attaque en Nouvelle-Zélande, le terrorisme d'extrême droite se rappelle à nous. Alors évidemment, il est pas nouveau, il s'est tristement illustré, et y compris d'ailleurs dans les périodes récentes. Il y a eu en 2017 au Canada cet homme qui a tué 6 personnes dans une mosquée, il y a eu aux États-Unis en 2015 cette fusillade dans une église noire de Charleston, il y a eu évidemment Anders Breivik en 2011 avec les 77 personnes tuées du côté de la Norvège. Mais ce qui frappe là avec la Nouvelle-Zélande...
Et puis le massacre à la synagogue de Pittsburgh.
Absolument, absolument. Mais ce qui frappe là ici avec la Nouvelle-Zélande, c'est la dimension internationale de ce tueur et de son parcours. On a dit c'est un Australien qui s'attaque à des mosquées en Nouvelle-Zélande, qui a voyagé en Europe et notamment en France, qui s'est inspiré plus ou moins en tout cas de théories qui ont été produites ici. Est-ce qu'on vient d'assister, Marc Weissmann, avec cet événement à l'émergence d'un suprémacisme blanc international, comme on a vu avec Al-Qaïda ou Daesh, un terrorisme islamiste international? Est-ce qu'on a là les prémices d'un nouveau terrorisme international d'extrême droite?
C'est beaucoup trop tôt pour dire ça comme ça. Moi, je pense que je parlerais plutôt d'une narration. D'une narration errante qui voyage. On trouve les mêmes présupposés. C'est moins une idéologie constituée que vraiment des mêmes narratifs, quoi, de la reproduction d'éléments narratifs qui finit par raconter une histoire.
On trouve la même chose dans le terrorisme islamiste. Mais c'est aussi exactement confus d'une certaine manière.
C'est un peu moins confus parce qu'on peut trouver les filiations métaphysiques et idéologiques salafistes ou wahhabistes, on les trouve. On trouve les réseaux salafistes, on trouve les réseaux de financement, c'est très clair. C'est beaucoup plus confus à l'extrême droite. Ceci étant, il y a un vrai parallèle. Et puis, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, une des grandes différences, c'est une qui ajoute à la confusion à l'extrême droite, c'est que les militants d'extrême droite ont tendance à être graphomanes. Ils écrivent leurs motivations. Il y a une sorte de conscience individuelle malade qui remonte à une abombeur. Hein, le terroriste américain qui a envoyé des colis piégés entre 78 et 80 et le milieu des années 90 a laissé un manifeste lui aussi un peu du même genre. Donc il y a cette idée qui rend les choses d'une conscience individuelle à l'œuvre qui rend les choses un peu plus compliquées à l'extrême droite. Ceci étant, il y a un point commun très profond entre le terrorisme islamiste et le terrorisme d'extrême droite, c'est la volonté de s'ancrer dans une certaine forme de populisme. C'est-à-dire qu'on peut voir tout à fait l'islamisme comme une forme de populisme musulman, hein, dans les deux cas où, à l'époque du fils algérien, il s'agissait d'incarner la parole du vrai peuple contre les militaires et contre le FLN. Tarente en Nouvelle-Zélande ou les autres incarnent la vraie tradition de l'héritage occidental contre ce qu'ils voient comme le multiculturalisme, le cosmopolitisme, la mondialisation, quoi, qui est porteuse de mensonges et d'hypocrisie. Sur ce point commun, cette recherche d'authenticité, d'identité, Là, il y a vraiment quelque chose de commun entre les islamistes et les militants d'extrême droite.
Vous dites qu'il est un peu trop tôt pour dire qu'on a là l'émergence d'un suprémacisme blanc international, mais c'est frappant. À chaque fois qu'il y a des tueries qui sont perpétrées par des suprémacistes, on les analyse dans des contextes nationaux. Elles sont vues comme des événements ponctuels qui n'auraient aucun lien les uns avec les autres. Et pourtant, on voit bien qu'il y a quand même une idéologie commune, des références communes, des figures tutélaires communes. Pas une difficulté quand même pour nous à envisager tout simplement l'émergence d'un mouvement suprémaciste mondial et d'où viendrait cette résistance?
Non, mais ce qui me gêne, c'est le terme d'idéologie, parce que il me semble qu'au XXIe siècle, le temps des idéologies constituées, qui était celui du XXe siècle, ce temps-là est passé. On voit bien que les sources de la narration peuvent se trouver aussi bien dans un jeu vidéo que dans les écrits d'un écrivain lu plus ou moins en diagonale ou plus ou moins profondément, on n'en sait rien, et dans l'héritage fasciste. On est plus dans un monde post-fasciste que franchement idéologique. Donc ça, c'est pour ça que je suis un peu réticent sur la question, sur l'idée d'une idéologie mondiale. En revanche, qui est ce que je parlais tout à l'heure d'idée de narration flottante, on la trouve. Ça voyage à travers les réseaux sociaux, ça voyage à travers des références communes comme ça, et on retrouve effectivement un certain nombre d'auteurs. Il y a un certain nombre d'auteurs qu'on retrouve, un certain nombre de références littéraires plus plus ou moins bien digéré qu'on retrouve de tel tueur à tel tueur.
Est-ce que l'élection de Donald Trump, Mark Weissman, a changé quelque chose? Est-ce que c'est une sorte, au fond, de déclic, peut-être pour ces mouvements qui, effectivement, sont tout à fait disparates, mais peut-être qui se sont vus, d'une certaine manière, légitimés par l'élection d'un homme qui montre, disons, une certaine proximité avec...
Je crois qu'il y a plusieurs, il y a eu plusieurs étapes. Je crois qu'on peut remonter les sources de ce qui se passe aujourd'hui. Il faut aller les chercher dans les années 90. Dans les années 90, on a Timothy McVeigh qui fait le terroriste d'extrême droite qui fait l'attentat à Oklahoma City. On a ce qu'on oublie toujours, la secte japonaise Aum qui jette du gaz sarin dans le métro de Tokyo pour lutter contre la mondialisation. Fomenté par les juifs internationaux. On oublie toujours que la secte Aum était une secte fasciste qui empruntait beaucoup à l'héritage fasciste traditionnel, tout japonais qu'ils étaient, et apocalyptique en même temps. Et puis on a effectivement un certain nombre de groupes qui montent dans les années 80, à la fois islamistes et à la fois d'extrême droite, en France notamment, où ils sont très présents. Il y a le Front islamiste du salut d'un côté, il y a les réseaux d'extrême droite qui se reconstituent à partir des années 90, idéologiquement, je veux dire, sans faire de mort en France. Et puis les premiers, avant Trump, le premier moment, c'est la culture post 11 septembre qui booste l'extrême droite française et européenne avec le surgissement de Jean-Marie Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle de 2002, et à ce moment-là la France devient une sorte de pôle magnétique de toute l'extrême droite européenne qui voit dans la France un truc d'avant-garde, un pays d'avant-garde pour l'avenir, pas forcément à tort d'ailleurs, parce que c'est en France à mon avis que se noue la narration populiste à ce moment-là qui va essaimer ensuite bien ailleurs, jusque effectivement aux États-Unis où on a, avec à mon avis effectivement avec Donald Trump, la libération de quelque chose soudainement, voilà, c'est possible depuis le début, depuis le 11 septembre. Il y a le mantra que les amateurs de violence découvrent, c'est que c'est possible. Voilà, les barrières sautent les unes après les autres, on peut passer à l'acte. Et ça, c'est le démenti de la théorie de Renaud Camus, le problème de Renaud Camus, et là où il y a une espèce de perversion dans les écrits de Renaud Camus, c'est que lui-même dit que sa théorie est impraticable. On ne peut pas organiser une politique de remigration à l'échelle nationale, ou encore moins à l'échelle internationale. Donc, il condamne ses lecteurs effrayés par son constat, à une position d'impuissance. Et si on ne veut pas être impuissant, et si on veut réagir quand même, si on n'a pas le masochisme jouissif de Renaud Camus qui dit « je suis une victime, je suis le messie de l'Occident victimaire », à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on va prendre les armes.
On va accueillir un nouvel invité par téléphone. Bonjour Olivier Estève.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'Université de Lille, un spécialiste du multiculturalisme et des politiques d'intégration, et en particulier du côté de la Grande-Bretagne, mais pas seulement. Dans le cas de cette tuerie en Nouvelle-Zélande, la Première ministre Jacinda Ardern a rappelé dans son discours la tradition d'accueil des immigrés et d'ouverture de son pays. Est-ce que cette tuerie doit être vue aussi comme une forme de remise en cause du multiculturalisme et des politiques d'intégration, Olivier Estève?
Alors je commencerai par dire que je ne suis pas à proprement parler spécialiste de la Nouvelle-Zélande, loin s'en faut. C'est peut-être vrai, mais le problème c'est que en France et en Grande-Bretagne et dans les pays anglophones en général, on a tendance à confondre. On confond la multiculturalité, autrement dit le fait multiculturel, qui est un fait social. Hein. Moi, si je vais à mon université à Roubaix, il y a toutes sortes d'illustrations dans la rue du fait multiculturel en France. Donc, il y a du multiculturalisme en France au sens de multiculturalité. Et donc, on confond ça avec le multiculturalisme comme politique publique. Mmh. Autrement dit, une politique publique qui va promouvoir... les langues minoritaires par exemple, ou qui va veiller à ce que les religions minoritaires ne soient pas brimées, ce genre de choses. Alors en Grande-Bretagne et puis en Australie et en Nouvelle-Zélande, on assiste depuis quelques années, sinon quelques décennies, à donc une remise en cause effectivement de la promotion du multiculturalisme, donc du multiculturalisme en tant que politique publique, hein, c'est assez net en Australie par exemple, depuis depuis des années, voire des décennies. Alors on a cette chance en fait dans des pays comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie de disposer. Bon, enfin, pour résumer, pour faire simple, on a cette chance de disposer à la fois de statistiques ethniques et de statistiques religieuses qui permettent de prendre en compte le fait que en Nouvelle-Zélande, par exemple, le groupe religieux musulman ne fait même pas 2% de la population. Donc ça, c'est un fait qui doit être constamment martelé pour bien prendre conscience de cette sorte de mythologie, si vous voulez, à la fois du grand remplacement et puis de ce que, je sais pas moi, d'autres idéologues pourraient appeler le rabbi, Eurabien, hein, pour l'Europe. Quoi. Donc ça, c'est très important.
Mais jusqu'où, Olivier Estève, est-ce que vous reliez ce terrorisme d'extrême droite dont on parle à l'échec de nos modèles d'intégration, à l'échec de nos politiques?
Quand on fait ça, on prend le risque de ne pas voir l'événement tragique qui vient de se passer comme étant le choix opéré par un choix donc tragique opéré par un individu sans doute mentalement dérangé, hein. Et donc je pense qu'il faut remettre un peu d'individu là-dedans. C'est-à-dire que effectivement un certain nombre de problèmes liés à l'intégration se posent. Bon, alors je pense que Monsieur Marc Weizmann a pointé un certain nombre d'éléments importants, hein, s'agissant de ce qu'on est tenté d'appeler cette internationale réactionnaire islamophobe, avec toutes ces narrations errantes dont il a parlé. Mais il faut pas perdre de vue que à la fois donc cet individu là, Brenton Tarrant, et puis également Anders Breivik, donc pour la Norvège, ce sont des individus dérangés, quoi. Ce sont je pense que ça c'est un élément très très important à prendre en compte. Même si leurs forfaits ne sont pas produits complètement ex nihilo, il faut remettre de l'individu là-dedans, me semble-t-il.
Il faut remettre de l'individu, mais à force de remettre de l'individu, Marc Weizmann, et peut-être de ne pas considérer ce que d'aucuns considèrent comme un échec de nos modèles d'intégration, est-ce qu'on ne risque pas de renforcer précisément la conviction de ces gens qui sont capables de passer à l'acte, Marc Weizmann?
Il y a beaucoup de choses, hein, dans la question là.
On a un petit peu de temps, Marc Weizmann.
je ne sais pas. D'abord, d'une part, je ne sais pas si je sais pas ce que c'est que les politiques d'intégration. Je ne crois pas que ce soit lié. Je pense que le passage à l'acte de violent est un mélange de pulsion subjective et de narration collective, quoi. C'est-à-dire que c'est ce mélange-là qu'il faudrait interroger. Donc effectivement, il faut remettre de l'individu. Je suis pas complètement convaincu qu'on puisse parler de gens mentalement dérangés. C'est beaucoup trop simple. À ce moment-là, tous les nazis étaient mentalement dérangés et tout le.
Oui, non, tout à fait, on est d'accord.
Voilà. Donc il faut faire attention à ça. Je suis pas non plus complètement convaincu qu'il s'agisse de. Je méfie beaucoup de ce terme d'islamophobie. Je n'y crois pas. Je crois que c'est tous ceux qui passent à l'acte, qu'ils soient islamistes d'ailleurs ou militants ou qui viennent de la sphère d'extrême droite, disent tous la même chose. Ce contre quoi ils luttent, c'est contre le mélange. Le fait qu'il y ait des gens qui viennent d'ailleurs, qui trahissent leur culture d'origine, en fait. C'est ce qui n'est pas supporté par les terroristes, qu'ils soient d'extrême droite ou islamistes. C'est l'idée d'une trahison de la culture d'origine. Il faut rester fidèle à son authenticité. Il faut rester fidèle à son identité, à ce dont on vient, à son héritage, et le défendre, si s'il le faut, les armes à la main, parce que c'est comme ça que les cultures se transmettent. Oui. Ça, c'est vraiment le point commun entre les deux sphères majeures d'extrême droite et islamiste. Donc je crois pas qu'il s'agisse de religion en tant que telle. Le terroriste de Nouvelle-Zélande, Brendan Trenan, dit dans son texte, il dit est-ce que je hais personnellement les musulmans, un homme ou une femme musulman vivant dans son pays d'origine? Non. Et il développe. Et il dit la même chose à propos des juifs. Je ne suis pas antisémite tant que les juifs vivent chez eux, c'est-à-dire dans son esprit en Israël. C'est-à-dire que ce qu'il ne supporte pas, c'est la notion de diaspora. C'est la notion de voyage. Il s'agit pas exactement, je ne crois pas non plus au multiculturalisme, en ce sens que on vit pas dans des, enfin, les gens viennent de plein d'endroits différents et se croisent, mais on vit pas dans des sociétés multiculturelles, en ce sens que la plupart des gens ignorent la culture dont ils sont porteurs. Oui. Très peu de gens sont capables de parler intelligemment de leur culture musulmane, juive, chinoise ou je ne sais pas quoi. Les gens sont complètement passifs vis-à-vis des cultures par lesquelles ils sont traversés. Donc, en ce sens, on vit plus dans un monde fragmenté et global, que dans, on vit pas dans un monde cosmopolite, si vous voulez. On vit dans un monde fragmenté et global. Et je pense que c'est une partie du problème. Parce que cette fragmentation engendre de vrais troubles et ceux qui passent à l'acte, en un sens, traduisent, mettent en acte ces troubles. Ils sont eux-mêmes complètement fragmentés.
Mais en même temps, cette fragmentation, elle est pas complètement nouvelle. Olivier Estève, est-ce que vous suivez Marc Weitzman sur l'idée qu'au fond, derrière, le problème, c'est pas forcément l'islam, le problème, c'est le mélange, Olivier Estève?
J'ai jamais dit qu'il s'agissait d'un problème strictement lié à l'islam ou à l'islamophobie. Simplement, j'utilise, moi, comme un certain nombre de collègues d'ailleurs, avec beaucoup de prudence, le terme d'islamophobie. Hein. Je pense qu'il faut l'utiliser mais de façon extrêmement prudente. Il faut également tordre le cou à un certain nombre de mythes liés à l'étymologie alléguée de l'islamophobie telle qu'elle a été décrite par Manuel Valls, par exemple. Il faut également, me semble-t-il, prendre conscience. Alors là, je rejoins tout à fait Marc Weitzman sur l'idée que derrière une certaine vision un peu idyllique du multiculturalisme, on a cette idée de ce qu'on appelait dans les années 60 et 70 en Grande-Bretagne l'harmonie raciale. Autrement dit, le fait que tout se passe bien, on vit entre nous, on vit mélangé avec une certaine vision un petit peu idyllique du métissage. Il y a un principe qui est un principe de ce qu'on appelle en général l'homophilie. Autrement dit, l'homophilie, c'est qui se ressemble s'assemble. Autrement dit, des majorités blanches ayant un héritage plus ou moins chrétien se retrouvent entre elles. Et il est tout à fait logique également que des musulmans ou des juifs, qu'ils soient immigrés ou pas, se retrouvent entre eux. Ce qu'on a tendance en France à décrire comme du communautarisme. Mais effectivement, ça a toujours existé. Je veux dire, c'est inévitable, surtout quand vous êtes une minorité. J'ai bien dit, par exemple, en Nouvelle-Zélande, il semble bien que les musulmans ne soient au moins que 1,5% de la population. On peut difficilement les taxer de communautarisme dans le sens où ils sont une petite minorité dans un pays qui, effectivement, est très majoritairement blanc et très majoritairement chrétien.
Sauf que la nouveauté, Olivier Estève, c'est que depuis quelques années maintenant, la classe populaire blanche se sent aussi marginalisée, minorisée, invisibilisée, délaissée. Ça, c'est une nouveauté. On le voit en Grande-Bretagne, on le voit en France, on le voit aux États-Unis.
C'est sans doute lié. Alors, il y a des choses nouvelles là-dedans et en même temps, il y a des choses assez anciennes. Bon, le terroriste en question, là, Brenton Tarrant, apparemment, semble être fasciné par certains débats ou certaines figures françaises. Hein. On pense bien évidemment à Renaud Camus, hein, par exemple. Cette idée de la perte d'identité, de la stigmatisation de la diaspora, cette importance de la thématique de l'enracinement, bon, c'est déjà des choses qu'on trouve en France avec Maurice Barrès, quoi, donc ça remonte à très très loin. Par contre, alors là, c'est un élément qui est assez important.
Oui, il y avait d'ailleurs déjà, je mets encore des guillemets, la théorie du grand remplacement chez Barrès.
Oui, d'une certaine manière. Alors moi, je suis pas spécialiste de Barrès, hein, mais effectivement, il y a un certain nombre de parallèles à suggérer entre tous ces auteurs.
Ouais, elle était exprimée comme telle dans son appel aux soldats de 1900, mais je ferme la parenthèse.
Oui, tout à fait. Alors l'autre élément qui est à prendre en compte, c'est que du point de vue d'un certain nombre de groupes qui se sentent comme des petits blancs, hein, dans les pays anglophones en général, mais c'est difficile de catégoriser donc les pays anglophones, les mettre tous dans le même sac. Il y a cette sorte de conscience qui est vraiment cyniquement attisée par un certain nombre de politiques, qu'ils sont des petits blancs et que donc on en fait une sorte de minorité raciale en tant que telle. Pour l'Australie, par exemple, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que il me semble parce que je suis pas spécialiste d'Australie, encore une fois, hein, que une des illustrations les plus rutilantes, on va dire, du multiculturalisme à l'australienne, c'est cette fameuse chaîne de radio qui s'appelle SBS. SBS, c'est en fait une chaîne de radio multiculturelle, donc résolument multiculturelle, qui diffuse dans 68 langues. Et ça peut donner l'impression à un certain nombre de petits blancs, donc en Australie, que voilà, ils ne sont pas représentés dans les médias, que dans les médias, on ne parle que des minorités et des immigrés. Généralement, on les réussit dans un groupe unique qu'on appelle eux, hein, they, hein, ils, hein, en français, hein, ils au pluriel. Et donc ça donne l'impression que les petits blancs, d'une certaine manière, n'ont pas de culture, si vous voulez. Et ça, bien évidemment, c'est cyniquement exploité par, ça a été exploité par Sarkozy en France, c'est exploité par d'autres en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Bon, on pense à Trump, bien évidemment, et d'autres personnes.
C'est exploité à droite, mais peut-être qu'il y a aussi des responsabilités du côté de la gauche. gauche, Marc Weissmann, parce que si les idées, on va les appeler comme ça, suprémacistes, disons, ont autant percé, c'est peut-être précisément parce que les populations blanches de la classe ouvrière ont eu le sentiment qu'elles étaient délaissées, et délaissées en particulier par les partis de gauche. C'est quelque chose qu'on a vu aux États-Unis avec le Parti démocrate, qu'on a vu en Grande-Bretagne avec le Labour, qu'on a vu en France aussi avec le Parti socialiste. Ce sont des critiques qu'on a formulées à l'égard de ces partis. Quelle responsabilité pour ces partis de gauche, précisément, dans ce sentiment de délaissement, d'invisibilisation de ces classes blanches, Marc Weissmann?
C'est pareil, parler de responsabilité causale, oui, il y a, on peut voir, par exemple en France, la fameuse, ce qui s'est passé, j'oublie le terme de cette étude qui est restée célèbre, là, selon laquelle, au Parti Socialiste, selon laquelle il fallait délaisser la classe ouvrière pour les jeunes, les immigrés, les femmes, etc., parce que c'est l'avenir de la gauche. J'oublie le terme de l'étude, mais qui est restée très célèbre. Et ça n'a pas particulièrement fonctionné jusqu'à présent. Mais je pense plus profondément que on assiste depuis la fin de la guerre froide à une mutation historique énorme qui fait que tout ce qui a permis à une classe moyenne de s'établir entre la fin des années 50 et la fin des années 70 est en train de s'effondrer ou est en train de muter de manière complètement inédite, et les gens perdent pied. Et donc effectivement, il y a le sentiment qu'on est entré dans un monde totalement fragmentaire où ce qui existait avant,
on les aide pas justement à reprendre pied. Regardez Marc Weissmann, par exemple, ce qui s'est passé sur le grand débat national. À un moment, il a été question de savoir s'il fallait parler des questions de migration, des questions identitaires. Oui, et finalement, on les a balayées. On les a pas pris de front.
Mais on les a balayées parce que personne ne sait comment les aborder. Je pense que les politiques sont aussi perdus que le reste de la population. On a affaire à un mouvement historique global qui échappe pratiquement à tout le monde, sauf aux malins populistes qui trouvent à mettre de l'huile sur le feu et à tirer les marrons et en tirer les marrons, si je puis dire. Mais personne n'arrive à qualifier vraiment l'époque qu'on est en train de traverser. C'est une époque de mutation pratiquement sans précédent, et tout le monde perd pied. Et effectivement, ceux qui se croyaient, c'est-à-dire que l'Occident a vécu dans la seconde moitié du XXe siècle avec cette idée d'une stabilité. Ma vie est stable, je travaille dans la même entreprise, si je change de travail au moins une fois, c'est pas grave, parce que de toute façon ça change rien à ma vie, puis je fais des enfants qui auront une vie meilleure que la mienne, etc. Mais on s'est pas rendu compte que ce mode de vie était un, extrêmement fragile, deux, extrêmement récent, et pas nécessairement pérenne.
Olivier Estève, vous voulez réagir sur cette responsabilité peut-être des partis de gauche?
Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Alors ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que dans tous les pays démocratiques avec des partis de gauche, de gouvernement, donc qui sont amenés justement à être gouvernement ou à constituer une opposition importante, il y a eu ce qu'on a appelé en 83 pour la France le tournant de la rigueur. Autrement dit, le fait que les partis de gauche, de gouvernement, ont embrassé les thèses libérales sans vraiment les appeler comme ça. Alors bien évidemment que quand en même temps un certain nombre de gestes symboliques plus ou moins positifs ont été envoyés envers les immigrés ou les minorités ethniques, un certain nombre d'anciens électeurs, donc et du PS et du PC d'ailleurs, se sont sentis d'une certaine manière floués. Ça c'est assez clair. J'essaie de
sur les thèses libérales, je pense que l'antilibéralisme est une des causes de, un des éléments qui nourrit la révolte, les révoltes populistes. Donc il faut faire très attention. C'est-à-dire que quand vous regardez ce qu'écrit Taren par exemple, il est le premier à fustiger le capitalisme, hein. Donc il faut faire attention aux critiques du libéralisme.
Même si c'est quelqu'un qui apparemment a fait fortune avec le capitalisme.
Non, il s'est voulu successivement libertarien et anarchiste, et puis éco-fasciste. Donc on n'a pas du tout affaire à un libéral. On a affaire à, quand il critique Macron, il le critique avec des phrases qui pourraient être celles des gilets jaunes, hein. Mondialiste, capitaliste, égalitaliste, banquier d'investissement.
Énormément d'argent avec ce système.
Je vous donne la parole, Olivier Estève. faire chacun son tour.
Ce sont les termes de Tarrant. Banquier Macron, banquier d'investissement sans autre conviction nationale que la marge du profit. Ça pourrait être les.
Ça pourrait être des arguments.
Ça pourrait être les termes d'Alain de Benoît. Ça pourrait être les termes de Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Ça pourrait être les termes que beaucoup de gens peuvent reprendre à leur compte.
Olivier Estève, cette fois.
Dans la critique du libéralisme.
Olivier Estève.
Oui, oui, non. Enfin, il y a aussi ce type de thématique est aussi porté par une gauche qu'on va appeler radicale. Hein, voilà, c'est simplement ce que j'avais à dire. Mais effectivement, ce sentiment d'être floué par un certain nombre de classes ouvrières, voire de classes moyennes inférieures, est lié effectivement à ce qu'on va appeler la droitisation des partis de gauche de gouvernement, que ces partis de gauche eux-mêmes appellent sans doute une modernisation, j'imagine. Enfin, c'est ce que dirait M. Blair, par exemple. Mmh.
Toute dernière action,
oui,
Marc
Weisman. Sur Barrès et sur l'origine des thèses du remplacement et des thèses nationalistes. Effectivement, je crois que c'est vraiment la France a été le berceau d'une certaine forme d'identitarisme, pas seulement Barrès, Maurras aussi. La fameuse phrase que tout le monde cite à juste titre d'ailleurs, le pays légal contre le pays réel, cette notion de pays réel qui doit lutter contre le cosmopolitisme, qui est la grande phrase de Maurras, on la retrouve aujourd'hui partout. Il s'agit effectivement tant pour les groupes islamistes que pour les groupes d'extrême droite, de lutter contre une forme de réalité et d'authenticité contre les mensonges de la globalisation. C'est ça qui les unit. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que ça me semble important.
Merci beaucoup, Olivier Estève. On va arriver au terme de cette émission. Alors, en quelques secondes, allez. En quelques secondes.
Non, simplement, la raison pour laquelle le terroriste en question invoque la notion de grand remplacement, c'est aussi parce que en langue anglaise, très simplement, grand remplaçant, ça se traduit très facilement et ça fait très bien. Ça peut presque faire titre de film ou titre de livre. Et donc ça, c'est une idée qui, sur les réseaux sociaux, va très, très facilement proliférer, si vous voulez. Et l'autre élément, très très rapidement, c'est que les intellectuels français, pour le meilleur et pour le pire, hein, le meilleur c'est Bourdieu, c'est Foucault, et le pire c'est effectivement Renaud Camus, hein, ont quand même une influence assez importante à l'étranger, malgré le fait que la France est maintenant une puissance moyenne, si vous voulez.
Merci beaucoup en tout cas Olivier Estève d'avoir été avec nous ce matin. Je rappellerai que vous êtes co-auteur avec Romain Garbaille de Le multiculturalisme britannique au XXIe siècle, enjeux, débat et politique, était paru aux presses Sorbonne Nouvelle.